France Culture. Les midis de culture. Élise Lépine.
Bonjour et bienvenue de l'autre côté du miroir avec le cinéaste allemand Christian Petzold. Depuis son premier long métrage Contrôle d'identité en 2000, il interroge l'histoire allemande, sonde le mystère du cœur et le secret des âmes. Le deuil, le déni, l'amour, l'absence et l'identité sont parmi ses thèmes de prédilection. On lui doit entre autres Fantôme, Barbara, Phénix, Ondine ou Le ciel rouge, des films situés aux confins de la tragédie et de la poésie. Son tout nouveau long métrage Miroir numéro 3 en salle mercredi 27 août met en scène une jeune femme, Laura, miraculeusement rescapée d'un accident de la route. Nous sommes très près d'une forêt, une femme vit ici, elle accueille Laura qui se glisse avec une grande souplesse dans cette nouvelle vie. Mais derrière les apparences de contes de fées, la maison dans les bois abrite une absence et Laura va découvrir la part de noirceur de son sauvetage providentiel. Miroir numéro 3 est un film poignant, traversé par la grâce et porté par le jeu magnifique de ses acteurs et ses actrices. En deuxième partie d'émission, nous reviendrons sur la carrière de Christian Petzold qui fait l'objet d'une rétrospective à la Cinémathèque française à Paris. Bonjour Christian Petzold.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous depuis Berlin. Vous êtes à distance, interprété par Florence Roucoux. Merci beaucoup, Florence Roucoux, et l'échange qui s'annonce est une grande joie pour moi. Au début de Miroir.
Berliner Herbststudio und draußen
dans un studio à Berlin, je vois passer les derniers jours de l'été et ça déclenche une certaine mélancolie.
Mélancolie qu'on ressent aussi dans votre cinéma, Christian Petzold.
Oui, je crois que j'ai écrit tous mes scénarios à l'automne. Je crois que je vais maintenant changer et passer à l'automne. Au printemps, ça changera un peu.
Au début de Miroir numéro 3, nous quittons la ville assez rapidement en voiture pour rejoindre la forêt. Et votre personnage principal, Laura, qui est incarnée par Paul Haber, monte en voiture avec son petit ami. Elle semble pas se sentir à sa place, ni dans la vie, ni avec ce garçon. Lui, il conduit comme un fou. Sur une petite route de campagne, il manque d'abord renverser une femme qui repeint sa clôture. C'est Betty, qui est incarnée par Barbara Auer. Elles échangent, Betty et Laura, un regard profond. Il se passe quelque chose entre elles, et puis la voiture repart, et quelques instants plus tard, on entend le bruit d'un accident. Betty accourt, le conducteur de la voiture est mort, Laura est indemne, les secouristes arrivent, Laura demande à rester dans la maison de Betty. Ça ressemble beaucoup, Christian Petzold, au début d'un conte de fées. Il y a la forêt, il y a une petite maison, une jeune fille qui sort de nulle part, une femme plus âgée qui l'accueille, et bientôt, on va le découvrir, il y a un secret dans cette maison. Ce n'est pas la première fois que vous utilisez ce genre d'ingrédients, Christian Petzold. Pourquoi le conte de fées est-il un terrain fertile pour le cinéma ?
Il va falloir considérer les choses sous un angle sociologique. Il faut savoir que Berlin, vous le savez, était entouré d'un mur, en tout cas l'Ouest, et tout autour, il y avait beaucoup de nature. En fait, Berlin n'est pas comme d'autres villes qui s'est vraiment éparpillée vers l'extérieur. Donc, lorsque le mur est tombé, il y avait vraiment de la nature à découvrir. Tout autour, il y avait des forêts, il y avait de la campagne, très peu habitée, très peu de densité. Et les Berlinois ont commencé à faire, comme les Français, des parties de campagne, ont découvert cette campagne et ont décidé d'y construire des résidences secondaires. Et ils ont rêvé de grandes fermes, de retour à la nature, etc. Ces maisons-là se trouvent aux alentours de Berlin et ont souvent été abandonnées entre-temps. Et je me suis dit, tiens, c'est étrange, pourquoi est-ce que ces maisons sont abandonnées? abandonné. Pourquoi est-ce que les gens ont fini de rêver? Parce que c'était un rêve. Alors, au début de Miroir numéro 3, on voit ces maisons et c'est en lien avec quelque chose qui s'est terminé. Peut-être que la mort y est arrivée ou la fin d'un amour. Et ces rêves qui sont arrivés à la fin, qui ne sont plus rêvés ou peut-être qui n'ont même pas commencé et qui se manifestent maintenant dans ces maisons, je trouve que ça, c'est à mettre en lien avec les frères Grimm.
C'est vrai que ça commence comme un cauchemar avec cet accident de voiture. Et puis petit à petit, on est vraiment dans une dimension onirique. On a presque l'impression que Laura aurait pu mourir aussi dans l'accident et qu'elle pourrait être passée dans un autre monde avec cette forêt.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Paula Beer, l'actrice qui joue Laura, lorsqu'elle couchait dans l'herbe, on s'est dit, tiens, on va lui enlever une chaussure. Pas parce que souvent les accidentés perdent des chaussures ou une chaussure, mais parce que moi, j'ai pensé à Cendrillon, donc le conte. Et ainsi, différents contes se sont superposés, ou en tout cas de la littérature jeunesse est rentrée dans cette histoire. Par exemple, évidemment, la peinture de la clôture, c'est vraiment Tom Sawyer. C'est raconté d'ailleurs dans le film. Il y a aussi, bien sûr, cette femme, une référence à la sorcière qui se trouve en lisière de forêt, qui est vêtue de noir et qui est en train de peindre sa clôture. Ça aussi, c'est une référence. Donc, voilà. Ça, c'était très important pour moi. Je voulais enchanter un petit peu cette campagne.
On va écouter un extrait de la bande-annonce de Miroir numéro 3.
Hat uns zum Essen eingeladen.
Hallo Mama.
Betty, was soll das denn?
Was denn?
Das da.
Sie kommt gleich.
C'est une scène assez parlante sur le film, je la résume, Christian Petzold. Betty, la femme qui a recueilli Laura dans Miroir numéro 3, a en fait un mari et un fils qui ne vivent pas avec elle et qui ne voient pas d'un très bon œil l'installation de Laura dans leur ancienne maison, la maison où ils vivaient avant, avec Betty. Laura semble pourtant très à l'aise, mais on comprend assez vite que c'est presque une histoire de fantôme, comme souvent chez vous. Et là, dans cette scène qu'on vient d'entendre, eh bien, il y a un dîner en préparation, Laura prépare à manger et le père et le fils de Betty sont assez mécontents qu'elle se soit installée dans leur vie. Est-ce que vous pouvez nous dire, Christian Petzold, ce qui hante cette famille?
Naja, ich habe ja gar kein Problem. Meine Filme, die Geschichte zu verraten.
Non, je n'ai aucun problème à vous raconter ce qui se passe dans le film. Moi aussi, je vais au cinéma et je voilà. Mais c'est quand même l'histoire d'un enfant qui est perdu. Je choisis les mots exprès. Et ça a à voir aussi avec le fait de ne pas pouvoir lâcher de la part de la mère. Elle n'arrive pas à se séparer de l'enfant mort. Donc, cette femme, tous les soirs, elle sort devant chez elle, elle se met au bord de la route et elle attend que sa fille revienne. Visiblement, elle est devenue quand même un petit peu folle, si je puis dire. En tout cas, elle est très, très perturbée. Elle a perdu le lien avec son mari et avec son fils. Et là, maintenant, elle invite le père de l'enfant perdu et son fils. Et ces deux personnages vont découvrir qu'il y a une quatrième assiette qui a été posée sur la table, puisque ça aussi c'est repris directement d'un conte de Grimm, hein, puisque qui a mangé dans mon assiette, enfin bon, on connaît l'histoire de Blanche-Neige. Donc, à ce moment-là, ils se disent, nom d'un chien, maman ou Betty, pour l'époux, est en train de retomber dans sa folie, il va falloir qu'elle retourne retournent en psychiatrie, etc. Et ensuite, ils entendent des bruits venant de la cuisine. Et là, comme un film d'horreur, ils se disent c'est un fantôme, un revenant, quelque chose. Hein. Ils sont tétanisés et tout à coup sort de la cuisine cette jeune femme qui a préparé un repas typiquement allemand, totalement imprononçable en français, mais ça s'appelle des Königsberger Klopse. Et ils se disent c'est quoi cette histoire? C'est une morte qui revient. Enfin, ça, c'est juste avant qu'elle ouvre la porte. Ils ont de gros doutes, ils sont effarés.
Vous vous êtes souvent intéressé à la question de la perte d'un enfant, Christiane Petzold. C'était le cas aussi dans Fantôme, c'était le cas dans L'ombre de l'enfant. Et là encore, on repense aux contes de fées, on peut penser à Hansel et Gretel, on peut penser aux joueurs de flûte d'Hamelin. Pourquoi est-ce que cette référence vous intéresse, Christiane Petzold ?
Je crois que c'est vraiment lié aux contes. Les contes des frères Grimm, qui ont été écrits pendant les guerres de religion et les guerres civiles en Europe en général, parce que ces guerres étaient terribles pour la population. Et dans ces contes, on exprime toute l'angoisse. Alors il y a être caché, le cannibalisme, les brigands, être tué, la forêt, et tout cela, ça vient pendant l'enfance. Lorsque j'ai lu les contes à mes enfants, je regardais toujours avec un œil la page suivante, hein, comme un scan rapide, parce que je me disais, mon Dieu, ils vont être absolument incapables de comprendre ça à leur âge, 4-5 ans, c'est pas possible. Ces blessures et ces traumas qui sont, ces traumatismes qui sont cachés dans ces contes sont ancrés très profondément dans notre mythologie allemande. Et ça a toujours une influence, en fait, sur les films allemands, en tout cas avant le fascisme, pour sûr.
Les contes parlent de l'inconscient et du traumatisme, vous venez de le dire, Christiane Petzold, et j'avais envie d'inviter Freud dans cette discussion. On écoute la psychanalyste Laurie Loeffer parler du déni.
Freud ne cesse de répéter que le deuil est une difficulté à comprendre. La réalité prononce son verdict, l'objet n'existe plus. Mais il ajoute que la tâche qui consiste à se détacher de l'objet perdu demande une grande dépense de temps et d'énergie. Et ce qui est tout à fait intéressant dans son analyse, c'est qu'il rajoute que pendant ce temps, l'existence de l'objet perdu se poursuit psychiquement. En fait, ce que Freud montre, c'est qu'il y a une tension entre la réalité, l'objet n'existe plus, et la réalité psychique, l'objet continue d'exister pour l'endeuillé. C'est exactement ce que note Freud lorsqu'il rapporte cette phrase d'un enfant qui vient de perdre son père. « À ma grande stupéfaction, un enfant de 10 ans très intelligent me dit après la mort subite de son père « Je comprends bien que mon père est mort, mais je ne peux pas comprendre pourquoi il ne rentre pas dîner ce soir. »
C'est la mécanique du deuil, selon Freud, qui est marquée aussi par le déni. L'objet n'existe plus.
Alors, j'ai eu un petit peu de mal à entendre l'original parce que, à entendre la traduction plutôt, parce que l'original était très fort.
Alors je vous le
miroir Nomadrai est quand même l'histoire de l'objet. L'objet, c'est Laura qui devient objet, qui se laisse devenir objet. Donc l'envie de devenir un objet m'a plus intéressé que l'histoire très brutale d'une jeune femme qui se serait suicidée et puis la maman a du mal à se séparer et puis elle essaye de recoller les morceaux, etc. Voilà, parce que le fait que l'objet puisse guérir quelque chose... Enfin, voilà, on va imaginer ça de la manière suivante. Laura a un accident. Juste avant, on voit bien qu'il y a une perte de repères dans sa vie. Je dois dire qu'à Berlin, il y a de très nombreux étudiants qui, pendant... pas seulement allemands, mais étrangers à Berlin, des étudiants qui, pendant la pandémie ici, étaient totalement isolés. voler. Alors, il recevait de l'argent, certes, mais il n'avait plus aucun lien social. Il y en a vraiment de très nombreux qui ont été traumatisés suite au COVID, à la pandémie du Covid. Donc, c'est un peu ça que j'ai imaginé avec Laura. Laura, elle a du mal à revenir à la vie. Elle a un ami. Oui, ils vont faire une balade, mais ça ne la touche absolument pas ou plus. Elle n'a plus de repères. Elle n'a plus de ressenti non plus. Alors, il y a cet accident et il y a cette femme qui arrive, qui la recueille, qui l'emmène à la maison. Et cette femme ne pose aucune question du style « C'est quoi ton nom ? T'habites où ? Et que fais-tu ?» Elle ne demande rien. Elle la laisse et elle lui demande son prénom. C'est tout. Et c'est une aubaine pour Laura. Elle est juste nommée par son prénom. Elle a pu lâcher tout le poids de son identité pour devenir finalement une autre. C'est un soulagement, c'est une libération. C'est ça qui m'a passionnée.
Chacune est dans une forme de déni, Christiane Petzold. En fait, d'un côté, on a une femme qui cherche une fille, de l'autre, on a une fille qui cherche sa place dans le monde. Entre les deux, il y a un deuil, le deuil de la fille de Betty, dans Miroir numéro 3. Ça m'a aussi fait penser à un autre de vos films, c'est Phoenix, que vous avez tourné et qui est sorti en 2014, dans lequel une femme de retour des camps n'est pas reconnue par son mari et refuse d'admettre pour sa part que son mari n'est pas celui qu'elle croyait. Qu'est-ce que vous vouliez dire à travers ces différents films sur l'effet que produit le deuil sur l'esprit humain et le déni qu'il peut entraîner ?
Oui, tout à fait.
En plus, pour Phoenix,
j'ai l'impression
que c'est en commençant à travailler avec les acteurs que je comprends ce qui va se passer. Parce que souvent, mes scripts sont assez succincts et c'est la complexité qui est reflétée par les acteurs qui m'enrichit et qui fait avancer l'histoire. Dans Phoenix, effectivement, l'Allemand qui a trahi sa femme juive pour pouvoir avancer dans sa carrière auprès des national-socialistes, ne reconnaît pas sa femme. Et il faut dire que c'est vrai que cette femme, elle a été traitée d'un point de vue chirurgical et elle est presque comme elle était avant, mais l'homme ne la reconnaît pas. Alors, évidemment, il y a tout un travail derrière. Évidemment que personne ne pouvait reconnaître les personnes qui sortaient d'un camp de concentration. Ils étaient méconnaissables. Surtout les Allemands, ils ne pouvaient pas reconnaître ce qu'ils avaient fait parce qu'ils reconnaissaient leur culpabilité. Donc forcément, ça transparaît dans ce film très fort.
Qu'est-ce qui vous intéresse tant, Christiane Petzold, dans la figure du double avec, on la sent déjà dans le titre, hein, Miroir numéro 3, mais il y a aussi la question du reflet. On ressemble à soi-même, on ressemble à quelqu'un d'autre, et finalement on ne sait pas très bien qui on est. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette thématique-là du double, Christiane Petzold ?
En fait, dans la littérature, bizarrement, ça ne m'intéressera pas du tout. Moi, j'aime bien les choses beaucoup plus simples, les choses sobres, les histoires sobres. Mais dans les films, je ne sais pas, c'est presque une base. Le film, le cinéma, c'est quelque chose où on est présent et absent. On y est, par exemple, présent quand on est assis dans une salle de cinéma, mais notre esprit est déjà complètement ailleurs. C'est déjà une histoire de double. On est là et pas là. On est reflété, on a des doubles que l'on voit en plus, qu'on rencontre. On a la possibilité d'être quelqu'un d'autre, d'avoir d'autres identités. Et ça, c'est vraiment le cinéma qui l'a inventé. Souvent, on nous dit le romantisme allemand a précédé. Oui, bien sûr, c'était déjà les bases, elles étaient écrites. Mais j'ai vu, dès mon jeune âge, des films. Par exemple, Nosferatu, Nosferatu n'a pas de double. Ça, ça m'avait effrayé parce que je l'ai vu quand j'étais jeune. C'est quand même étonnant. Il y a aussi le personnage qui n'a plus d'ombre parce qu'il a vendu son ombre. Nosferatu qui n'a pas de double. Jean Cocteau qui parle de la mort et de... Voilà, ça, ce sont des impressions vraiment très, très fortes qui ont ouvert des fenêtres et des portes. Et ça, ça s'infiltre partout, même dans des séries, on voit cela. On a l'impression que cette idée du double, du miroir, s'est infiltrée partout. C'est vraiment l'essence, la quintessence du cinéma.
C'est très rassurant, en fait, d'avoir un double. Ça pourrait sembler inquiétant d'avoir comme ça un reflet, mais vous me dites, Christiane Petzold, que finalement, avoir un double, avoir une part d'ombre, avoir une part cachée ou une autre personnalité, c'est être humain et c'est être le contraire du vampire qui n'a pas de reflet dans le miroir. C'est ça, Christiane Petzold ?
Oui.
Le fait que le vampire n'ait pas d'image, ne peut pas se refléter dans le miroir. Alors ça veut dire qu'il n'existe pas. C'est assez brutal d'un côté. Et je vais vous dire ce que je n'aime pas du tout dans le cinéma et dans les films, c'est quand quelqu'un a des problèmes, qu'il se regarde dans le miroir et que le miroir se fissure parce que cette personne, le personnage ne s'aime plus ou se considère comme un monstre. Alors ça, non, ça m'agace. C'est pour cela que malgré le fait que le film s'appelle Miroir numéro 3, il n'y a aucun miroir. Je déteste cela. J'aime pas du tout quand les gens sautent dans un lac en hurlant ou dans l'eau en général ou quand ils se regardent dans un miroir. Enfin, tout ça, je sais pas. C'est peut-être parce que c'est devenu une inflation dans le cinéma. On en voit partout.
Et vous n'aimez pas les choses trop démonstratives, Christiane Petzold. Vous en dites d'ailleurs très peu sur ce qu'ont vécu les personnages, que ce soit le père, le frère, le Betty même, ou Laura. On voit simplement, à travers de petits détails, que Betty est considérée comme folle par ses voisins et par ses voisines. C'est plus suggéré qu'expliqué. Est-ce que c'est parce que vous n'aimez pas les grandes démonstrations que vous ne faites pas, par exemple, de flashbacks ou de dialogues un peu développés qui pourraient expliquer certaines scènes du passé, mais que vous suggérez par petites touches à l'aquarelle, Christiane Petzold.
Je sais pas. Admettons que je marche dans une ville, je m'assois à la terrasse d'un café, à côté de moi il y a un couple, je ne les connais pas, je ne sais rien sur eux, mais j'imagine beaucoup de choses. C'est la même chose pour moi au cinéma. J'aime bien aller voir un film et ne pas tout savoir, découvrir ou imaginer, ou comme on le voyait dans les film américain des dernières années, à la fin tout le monde est ensemble, se retrouve autour d'une table et puis il parle d'un problème et puis il l'élimine. Non, moi j'aime bien quand nous, spectateurs, quand nous, spectateurs, nous-mêmes, nous pouvons produire l'histoire, le film, quand nous devons faire un effort, on peut s'imaginer ce qui s'est passé. Moi, à ce moment-là, en tant que celui qui regarde, je suis assez content parce que je me dis, tiens, on a besoin de ma coopération. C'est quand même sympathique d'être un spectateur qui participe. Une fois de plus, dans mon fauteuil au cinéma, j'y suis, je n'y suis pas. Je comprends quelque chose et je ne le comprends peut-être pas non plus. Et c'est ça que j'aime bien. J'adore être spectateur de films. Mais j'aime bien participer à l'imaginaire.
Vous faites confiance à l'imagination et à la sensibilité de votre spectateur, si je comprends bien, c'est presque... vous participez, quand vous regardez un film, vous vous impliquez, votre imagination s'implique, mais votre spectateur ou spectatrice, c'est presque un personnage du film qui va l'orienter avec sa propre imagination, si je comprends bien. Il est actif, presque acteur ou actrice. Christiane Petzold.
Oui,
puisque moi-même, je l'expérience comme ça. Vous savez, à 99% de ma vie, je vais au cinéma, enfin, je suis spectateur des films. Et je n'aime pas être manipulé de manière précise, enfin orientée, vous voyez, il faut m'amener là et là. Hier, j'ai regardé le film d'Anthony Mann, Winchester 73, je l'ai regardé hier soir. On ne sait rien, ce sont deux hommes qui se baladent, il y a une histoire de fusil. Au fur et à mesure se révèle l'histoire d'un parricide, d'une brouille entre deux frères, mais à aucun moment on n'en sait plus. Il n'y a pas de grand monologue qui raconterait l'histoire. Et ces deux-là qui cherchent le meurtrier sont assis autour du feu, et il y en a un qui dit à l'autre, dit, ça fait 10 ans qu'on est déjà parti à la chasse de ce meurtrier, est-ce qu'on est devenu copain? Oui, on va dire comme ça. Et c'est tout ce qu'on apprend sur ces deux-là. Rien d'autre n'est dit.
Il y a beaucoup de symbolisme, beaucoup de choses suggérées, on l'a dit, Christiane Petzold. Et dans Miroir numéro 3, le fils de Betty, Max, et son père travaillent ensemble dans un atelier de réparation de voitures. Et c'est un duo de personnages qui sait tout réparer. Ils peuvent venir comme ça, réparer aussi bien une voiture qu'un lave-vaisselle. Ça raconte une histoire triste, Miroir numéro 3, mais ça raconte aussi une histoire de consolation. Vous, vous ne jugez pas la façon dont vos personnages tentent de réparer leur cœur. Est-ce que vous vouliez aussi faire un film sur la consolation et toutes les formes qu'elle peut prendre, Christiane Petzold?
Pendant le tournage, la réparation d'objets, mais aussi la réparation des âmes, de blessures, que la réparation, donc en général, était un grand sujet du film en général, du cinéma. C'est un petit peu Taxi Driver, hein, Travis, qui est quand même un peu fasciste, et qui lui aimerait tout à coup qu'arrive une grosse pluie qui effacerait tout ça. Bon, enfin, tout ce que lui n'aime pas dans la ville. Et il est vrai que les êtres humains, avant de réparer, sont obligés de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir réparer. Ce travail de réparation, c'est exactement tout ce qui se passe dans ce film Miroir numéro 3. Et c'est pas simplement réparer des voitures, bien sûr, ou réparer un lave-vaisselle. C'est aussi la réparation, la réconciliation de ces trois personnages. Je trouve que c'est d'ailleurs ce qu'il y a de plus compliqué à faire dans la vie, mais c'est aussi ce qui rapporte le plus de satisfaction quand ça fonctionne.
Le titre du film, Miroir numéro 3, est aussi tiré d'un morceau de musique, Christiane Petzold. Il fait référence au morceau Une barque sur l'océan, du cycle pour piano Miroir de Maurice Ravel. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce film-là, Christiane Petzold? Est-ce qu'on est toujours dans la thématique de la consolation ou de ce qui rassure, une barque sur l'océan, un sauvetage, mais aussi quelque chose de dangereux et d'insondable, Christiane Petzold?
Le ciel rouge.
Eric Rohmer spielte für diesen Film eine ganz große Rolle.
Eric Rohmer a joué un rôle très important pour ce film. Vous savez qu'il y a toujours chez Rohmer des scènes de repas, de nourriture. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a dit oui, parce que Eric Rohmer a eu très très faim pendant la guerre quand il était jeune, et donc la nourriture et le repas. C'est vraiment très très important, c'est important aussi pour la société, etc. Manger ensemble, prendre un repas ensemble. Alors, dans Le Ciel Rouge, et pendant le repas à la Eric Rohmer, j'ai raconté une histoire sur cette musique de Ravel. Pourquoi? Parce que c'est un peu toujours le même sujet, sauf que là, il y a une petite variante, et puis il y a un petit peu de légèreté, et je trouve que c'est un petit peu la même chose. C'est une rencontre au cinéma ou dans un film, une rencontre entre des gens qui ont des choses à dire, qui ont des regrets ou qui ont des haines. Alors, Paula Baer, qui sait parler français, avait donc traduit cette musique et on s'est dit, tiens, ça va faire une métaphore particulièrement adapté parce que il y a ce bateau qui a coulé, il y a les morceaux qui flottent à la surface et autour de cela, eh bien, on va construire un radeau pour pouvoir sauver ce qu'il y a à sauver. Voilà. Alors, j'ai raconté cette histoire à tous les acteurs et ce sont les mêmes acteurs d'ailleurs que j'ai embarqués sur le bateau de ce nouveau film et qui ont formé le radeau.
Merci beaucoup d'avoir été avec moi, Christian Petzold. Et me revoici dans les midis de culture, toujours en compagnie du réalisateur allemand Christian Petzold depuis Berlin, qui sort la semaine prochaine son tout nouveau film, Miroir numéro 3. L'œuvre de Christian Petzold fait aussi l'objet d'une rétrospective à la Cinémathèque française du 26 août au 4 septembre prochain. On pourra voir toute sa filmographie, les 10 longs métrages, les 5 téléfilms qu'il a tournés, mais aussi ses courts métrages. Pour entamer cette discussion sur la carrière de Christian Petzold, j'aimerais que nous écoutions un extrait de son précédent film, Le Ciel Rouge.
Und? Hat dir nicht gefallen?
Nee.
Jetzt vielleicht auch ein bisschen genauer.
Weißt du selber, dass das Bullshit ist? Ich mach Gulasch. Wir können später ja nochmal reden.
Ja, ich geh mal schwimmen, ist besser so.
Dans ce film Le Ciel Rouge, Christian Petzold, un jeune homme, Léon, se retire avec son ami Félix dans une petite maison toujours dans la forêt, près de la mer, d'ailleurs maison menacée par des incendies gigantesques. Mais sur place, il trouve Nadia, une jeune femme qui va perturber leur quotidien. Léon est un jeune écrivain qui travaille assidûment à son deuxième roman. Il le fait lire à Nadia et elle lui annonce, on l'entend ici, qu'elle trouve que ce qu'il a écrit c'est du bullshit. D'après elle, c'est assez mauvais. Christian Petzold, on voit ici dans ce film à quel point l'acte de créer est difficile, même quand on a un désir profond de le faire.
Oui, alors je ris moi-même. Au sujet de cet extrait, enfin, ça me fait rire. Parce qu'il a fallu, en fait, que Paula Baer devienne une vraie critique littéraire. Ça m'amuse parce que on entend quelques phrases, mais il y avait toute une page qui était écrite pour ça. Et puis, en plus, Paula ne voulait pas faire cette critique de livre. Elle dit, mais non, mais je peux pas faire exactement ce que je veux parce qu'en fait, c'est plutôt toi le critique. Enfin, voilà. Et je me suis dit, bon, ben, on va voir ce qu'elle va en faire. Je lui fais confiance. Et puis finalement, ça s'est résumé par ce mot bullshit. Point.
Vous avez vécu ce genre d'affre créative, Christian Petzold. Vous avez eu l'impression parfois, ou est-ce qu'on vous a dit parfois, vous qui avez pourtant fait tant de films et qui sont des chefs-d'œuvre, l'impression de faire du bullshit, pour citer cet extrait du film?
Ja, ich glaube, dass die Angst, dass
alors, einem mal jemand sagt, en fait, dass man dann la so peur d'entendre sagt, cela, elle est là, ich oui. Beispiel, bien sûr.
Hier bei
par exemple,
das Ende war im Drehbuch ein vollkommen
anderes. Pour Miroir numéro 3, la fin, le script était totalement différent. J'étais très fière de cette fin, parce que c'était très littéraire, enfin c'était magnifique. Parce qu'en fait, après le concert, elle retourne vers cette famille, la vraie famille, mais la fausse famille, Laura. Et donc elle est devant la clôture, qui donc a été peinte en blanc, Et elle est là, elle regarde, et la famille est là, ils sont en train de faire des œufs brouillés, boire du café, et puis la famille voit qu'elle est là, et donc elle ouvre le portillon, et elle rentre dans le jardin. Voilà. Et c'était absolument magnifique. J'étais super fière de moi parce que c'était bien. Voilà. Elle rentre dans la famille. C'était la dernière phrase. Une fierté immense. Et puis, Paula, Bea, et puis Enno Treps, qui joue le fils, sont venus me voir et me disent, t'es sûr? Tu veux vraiment qu'elle rentre dans cette famille? Qu'elle y retourne? C'est quoi cette histoire de fantôme, alors? Et moi, je leur disais, mais si, c'est la plus belle phrase que j'ai jamais écrite, etc. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient raison. Alors, 5 mois après la fin du tournage, finalement, parce qu'on l'a tourné comme ça, mais 5 mois après, je l'ai changé, donc au moment du montage.
Il y a vraiment une dimension collective dans votre travail. Vous êtes à l'écoute des acteurs et des actrices que vous faites travailler, Christiane Petzold.
Oui,
parce que en Allemagne, on n'a pas vraiment une industrie cinématographique. En fait, tout le monde en rêve, mais c'est juste, on fait semblant. Quelqu'un dit dans les années 60, on forme tous des petits groupes, des petits collectifs. Je trouve plus le mot exact, mais qui avait été prononcé à cette époque-là. Mais c'était dans les années 60.
Et
je crois qu'en effet, en absence d'une industrie, il y a des groupes, des collectifs, il y a des gens qui se rencontrent et qui produisent. Et c'est ce collectif aussi qui assure notre subsistance. Rossellini faisait la même chose. La Nouvelle Vague faisait la même chose. C'était des petits groupes, mais Wim Wenders aussi, Fassbinder aussi. Donc j'ai repris un petit peu de cela. Je travaille avec les mêmes. On essaye de former un ensemble pendant quelques temps pour pouvoir découvrir quelque chose aussi. Parce que quand on change tout le temps d'équipe, on a l'impression qu'on refait tout le temps le même film, mais quand on reste ensemble et toujours avec les mêmes, on est obligé de changer, sinon on s'ennuie.
Vous avez plusieurs cinéastes de référence, vous en avez cité d'ailleurs quelques-uns à l'instant. Je propose qu'on écoute l'un d'entre eux, le réalisateur de documentaire Haroun Farhoki, avec qui vous avez travaillé notamment.
Bon, l'éducation du cinéaste, du cinéphile était très traditionnelle avec l'héritage de André Bazin et du Cahier du cinéma et toutes les leçons que la Nouvelle Vague a enseignées. Pour moi, c'est une forte formation, cela.
Et quand Jean-Luc Godard dit et répète que le cinéma est mort, ça vous choque ou bien vous souriez ?
C'est un peu effrayant, ça me choque un peu, mais...
C'est une réalité pour vous ?
Pas totalement, mais relativement, c'est un peu comme avec l'industrie, naturellement, elle existe encore, mais l'époque d'industrie n'existe plus de cette manière. Qui avait pensé 30 ans avant qu'un jour l'espion voulait avoir des caméras dans un téléphone, oui. Qui pense à cette idée? Et aujourd'hui, les espaces changent, les fonctions, les musées deviennent des librairies ou des ciné-clubs et toutes ces choses changent chaque moment.
Haroun Farhoki a été votre enseignant, vous avez suivi certains de ses cours, Christiane Petzold, et puis vous avez travaillé ensemble sur différents films. C'est intéressant parce que là, il parle justement de l'industrie du cinéma dont vous parliez juste avant qu'on écoute cette archive. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que Haroun Farhoki vous a appris, Christiane Petzold ?
Erstmal, er war auch mein bester Freund.
Alors, D'abord, c'était mon meilleur ami.
Et
c'est très sympathique de l'entendre parler français parce que pendant l'été 87-88, quand notre amitié a vraiment démarré, il avait 8 heures par jour des cours de français. Et c'était, voilà. C'est bien de l'entendre parler français. Parce que c'était un passionné de films français. Et moi, pendant toutes ces semaines d'été, ben voilà, je n'ai pas appris le français. Moi, je suis partie à la piscine quand lui prenait ses cours de français. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une interprète et qu'on ne peut pas discuter directement. Mais nous sommes donc avec Haroun vus tous les jours. Il dégageait une énergie particulière parce que lui, il s'occupait de la déconstruction de l'industrie cinématographique. Et on entend à un moment donné Jean-Luc Godard dire donc que le cinéma est mort. Et lui, ça l'a beaucoup préoccupé, ça. Et je lui ai dit à un moment donné, mais on n'a pas besoin de déconstruire parce que ça va mourir. On va quand même pas faire de la déconstruction de la mort. On est plutôt dans une phase de reconstruction. Il faut essayer de maintenir quelque chose, il va falloir être humble. Moi, c'était mon argumentation à moi à ce moment-là. Et c'est ça qui nous a vraiment soudés. Quelquefois, il s'amusait, il avait un petit sourire, il me regardait en disant « Oh, on va le laisser rêver encore un peu ». Mais voilà, sa mélancolie et puis mon envie de vouloir maintenir quelque chose, c'est ce qui a fait que nous ayons tant travaillé ensemble. Et pu travailler ensemble bien.
Est-ce que pour vous, Miroir numéro 3, votre tout nouveau film, s'inscrit dans un cycle et répond à d'autres films en particulier que vous avez fait précédemment, Christiane Petzold ?
Oui,
en tournant, j'ai pensé à Fantôme, vous savez, le film Fantôme, qu'ils étaient peut-être un petit peu liés. C'est pas quelqu'un juste qui disparaît, mais c'est ce qui est provoqué par le vide qui est apporté par l'absence de la personne. Comment remplir le vide? Comment guérir la plaie? J'aime bien l'idée de guérir et de refermer les blessures. Ça, c'est ce qu'on voit dans Fantôme, qui est basé sur un conte de Grimm qui s'appelle Le Petit Linceul. Et oui, bien sûr, c'est reflété dans Miroir numéro 3, le petit linceul apparaît. En allemand, ça se dit Totenhemdchen. Je trouve aussi que Barbara et Phoenix se correspondent. On essaye d'empêcher l'amour entre deux personnes parce qu'on pense que l'avenir ne permet pas cet amour. Et puis dans le deuxième film, au contraire, on essaye vraiment d'insister sur l'amour, etc. Les films communiquent les uns avec les autres, c'est sûr.
Oui, on parlait du cinéma qui ne meurt pas, mais qui finalement se métamorphose ou se réinvente. C'est un peu la même chose avec les sujets de vos films, Christiane Petzold, en quelques mots avant de se quitter.
Yeah.
Oui, l'industrie mourante.
En fait,
une fois de plus, je pense que je n'ai pas vraiment participé à cette industrie du cinéma parce que c'est quelque chose qui est très loin de moi. Alors, il y a peut-être encore des réminiscences quelque part. Jean-Louis Godard le disait, il a été rejeté. Moi, j'ai jamais fait partie de l'industrie, de cette industrie. Moi, je suis vraiment en dehors de tout cela, mais pour des raisons différentes, sans doute, que Jean-Luc Godard.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Christiane Petzold. Merci.
What can I say? She's a walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream?
Can it really be the way it seems?
Et merci beaucoup à Florence Roucou-Conan pour l'interprétation excellente de cet entretien. Je rappelle que le très beau Miroir numéro 3 sort mercredi prochain en salle et que du 26 août au 4 septembre se tient une rétrospective de l'œuvre de Christian Petzold à la Cinémathèque française. On écoute How Can We Hang On to a Dream de Tim Hardin, qui ouvre le tout premier long métrage Contrôle d'identité de Christian Petzold. Cette émission a été préparée par Zoé Coupé, Léa Weichgruss, Lisa Dejode, Nina Gandara et Inès Bouffartig-Sébastien. À la réalisation aujourd'hui, Léa Racine, et à la technique, Ludovic Auger.